Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Zéphirin Quadio.
Bonjour à tous, dans une demi-heure, vos réactions et vos commentaires sur la progression de l'épidémie de fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest. Le virus qui a déjà fait plus de 670 morts dans 3 pays de la région continue de s'étendre avec un premier cas confirmé au Nigeria, c'était la semaine dernière. Les organisations internationales estiment désormais que la fièvre Ebola relève d'une épidémie régionale qui doit être combattue comme telle. Dimanche, le Libéria a annoncé la fermeture de la plupart de ses postes frontières, à l'exception des principaux points d'entrée où des centres de dépistage devraient être installés. Alors, comment jugez-vous la réaction des États face à cette menace? Quelles en sont les conséquences sur votre vie quotidienne? Pour en débattre, vous nous rejoignez 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord, et comme chaque jour, vos questions à la rédaction. Rendez-vous aujourd'hui entièrement consacré à vos nombreuses questions, des questions que nous avons reçues sur la guerre dans l'enclave palestinienne de Gaza. Toufik Ben Aïchouch du service international qui suit ce dossier est à mes côtés pour vous répondre. Bonjour Toufik.
Bonjour.
Et on commence avec une question sur le rôle de médiation de l'Égypte dans ce conflit israélo-palestinien. Une question de Diakaridia qui est en ligne à Bamako, Mali. Bonjour Diakaridia.
Bonjour, Jeffrey.
On écoute votre question.
J'aimerais savoir quelles sont les conséquences de la position, du changement de la position d'Égypte vis-à-vis du Hamas.
Très bien. Alors, je rappelle que le 13 juillet, des centaines d'Égyptiens ont manifesté, puisque la question, c'est le rôle de médiateur de l'Égypte dans cette affaire. Des centaines de manifestants, se sont mobilisés dans le centre-ville du Caire pour dénoncer l'opération israélienne bordure protectrice. Opération qui a déjà coûté la vie à plus d'un millier de Palestiniens. Les manifestants du Caire ont aussi dénoncé l'immobilisme justement des dirigeants des pays arabes, en particulier ceux de l'Égypte, accusés notamment de participer au blocus de l'enclave palestinienne de Gaza. Mais d'abord, Toufik, comment a commencé ce conflit entre le Hamas, si on peut le dire comme ça, et Israël?
Alors, souvenez-vous, c'est simple. En Cisjordanie, 3 jeunes Israéliens se font enlever et on retrouvera leurs cadavres quelques heures plus tard, en fait. Oui. Alors à ce moment-là, le premier ministre israélien accuse le Hamas et demande des comptes à Mahmoud Abbas. Donc Mahmoud Abbas, je vous rappelle, c'est le président de l'État de Palestine, qui est issu de l'OLP et qui gouverne la Cisjordanie. Mahmoud Abbas fait remarquer à Benjamin Netanyahou que l'endroit où on a trouvé les 3 cadavres des 3 jeunes juifs assassinés, cet endroit est régi par la police et les forces de l'ordre israéliennes et non pas par les forces de l'ordre palestiniennes. Mmh. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais il faut juste savoir que après la mise en place des accords d'Oslo, oui, si vous voulez, il a été décidé entre Israël et la Palestine que certaines zones seraient entièrement autonomes, donc la sécurité incomberait aux forces palestiniennes. Oui. Il y a des zones qui sont mixtes où c'est des brigades à la fois israéliennes et palestiniennes qui assurent la sécurité, et il y a des zones où c'est entièrement Israël qui contrôle la région. Bon, Benjamin Netanyahou accuse le Hamas. Le Hamas, lui, n'a pas revendiqué d'abord. Et puis, beaucoup de gens se posent des questions parce que le Hamas, quel serait le bénéfice du Hamas de tuer 3 jeunes colons en Cisjordanie, donc pas loin d'Hébron, alors qu'il aurait pu très bien les enlever et ensuite les monnayer. C'est ce qu'il avait fait, souvenez-vous, avec Gilad Shalit. Oui. Donc ce soldat franco-israélien qui avait été enlevé et finalement qui a été libéré en échange de la libération de 1000 prisonniers palestiniens. Bon, alors le Hamas ne revendique pas cet enlèvement, mais tout le monde le tient pour responsable. Et curieusement, vendredi dernier, c'est la BBC sur son site qui rapporte ce fait, le chef de la police israélienne, Mickey Rosenfeld, si j'ai bon souvenir, affirme que il n'est pas certain que ce soit le Hamas qui soit
responsable.
Oui, voilà. Alors pourquoi? Parce qu'il dit, entre autres, si ça avait été le Hamas, il n'aurait pas procédé à ces meurtres, il aurait utilisé, si vous voulez,
comme monnaie d'échange.
Voilà, comme monnaie d'échange. Et puis deuxièmement, il dit aussi, nous l'aurions su. Donc finalement, il y a beaucoup de bruit autour. Il faut confirmer tout cela, mais il semblerait acquis que c'est une famille palestinienne qui était liée au Hamas, c'est vrai, mais qui par le passé a toujours pris des initiatives sans que le Hamas ne les entérine ou soit au courant. Bon, voilà. Donc voilà comment tout a commencé. Ensuite, à Jérusalem Est, donc en territoire palestinien, des Israéliens coursent un jeune Palestinien de 16 ans, le force à boire du carburant, l'asperge de carburant et le brûle. Voilà. Mmh. En grosso modo, c'est ce qui a mis le feu aux poudres.
Voilà, alors pour répondre précisément à la question de Diakaridia, qui est de savoir quelles sont les conséquences du changement de position de l'Égypte vis-à-vis du Hamas, qu'est-ce qu'on peut répondre précisément à Diakaridia là-dessus ?
Et le changement de la position de l'Égypte tient au fait que ce soit l'ex-maréchal Sisi qui est arrivé au pouvoir. Oui. La première chose qu'il ait faite, souvenez-vous, quand il a dépossédé du pouvoir Monsieur Morsi, qui est le chef des frères musulmans. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir que le Hamas est lié, si vous voulez, à la mouvance des frères musulmans.
Oui, d'accord.
Aller très vite, c'est des cousins. Donc, quand Morsi était au pouvoir, il a laissé les Palestiniens creuser d'autres tunnels entre la bande de Gaza et l'Égypte, parce que la bande de Gaza est sous blocus, au moins depuis 2006, c'est-à-dire rien ne rentre, rien ne sort. Et avec la complicité des frères musulmans, donc, les Palestiniens ont creusé des tunnels, ont pu faire rentrer les armes donc qu'ils utilisent aujourd'hui encore, et surtout des vivres, des médicaments, enfin tout ce qui leur manque, voilà. Mais à l'arrivée au pouvoir de Sisi a tout changé, il a fait fermer tous les tunnels et il a fait fermer la frontière. Donc c'est une grosse colère de la part du Hamas. Le Hamas l'accuse de faire le jeu d'Israël. Et donc les relations entre les deux pays sont assez envenimées. Alors je sais bien que l'Égypte a proposé un cessez-le-feu dès les premiers jours du conflit, mais pour le Hamas, c'est un cessez-le-feu inacceptable, parce que les termes de ce cessez-le-feu demandaient au Hamas de déposer les armes et ils n'obtenaient rien en contrepartie, sinon peut-être la fin des hostilités, parce que Israël, de l'autre côté, lui, entend se satisfaire d'un cessez-le-feu à la seule condition qu'il a l'assurance que tous les tunnels seront détruits et que le Hamas sera désarmé, ce que le Hamas ne peut pas accepter. Donc le Hamas dit que l'Égypte a fait une proposition qui n'est pas recevable. En ce moment même, après plus de deux semaines de combats très sanglants, vous avez rappelé les bilans, l'Américain Kerry,
le secrétaire d'État,
exactement, et bien avec l'aide de l'Égypte, essaie de trouver une nouvelle mouture qui pourrait convenir aux deux belligérants.
Voilà, Diakaridia, ce qu'on pouvait répondre à votre question, toujours sur ce thème de la médiation, et une question de Lassie également en ligne à Bamako sur le rôle de l'Union européenne justement. Bonjour Lassie.
Ah bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Bienvenue, on écoute votre question.
Pourquoi l'Union européenne ne propose-t-elle pas de médiation dans ce conflit israélo-palestinien ?
Alors, Toufik, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont condamné les tirs de roquettes sur Israël depuis la bande de Gaza. Ils ont aussi appelé Israël à rester, comme on dit, mesuré dans sa réaction et à assurer la protection des civils. Les Européens, on le voit bien, condamnent la violence, mais ne proposent pas réellement de médiation dans ce conflit. Quelle est la position de l'Union européenne ?
La position de l'Union européenne, comment dire, pour être gentil, elle fait ce qu'elle peut. C'est-à-dire que... non, mais vous allez comprendre. Israël ne veut pas d'une médiation de l'Union européenne. Israël a toujours eu l'intention de traiter directement avec les États-Unis et c'est ce qu'elle a toujours fait. Donc l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle a lancé des appels à un arrêt des combats, à plus de mesures du côté israélien. Voilà, mais ce sont des appels. En revanche, l'Union européenne a un rôle essentiel. Pourquoi ? Parce que depuis 93, c'est-à-dire depuis les accords d'Oslo, c'est l'Union européenne qui fournit une aide qui permet aux Palestiniens de vivre normalement, c'est-à-dire de pouvoir acheter des vivres, des médicaments, etc. Donc en d'autres termes, depuis 93, à chaque fois qu'il y a eu à chaque fois que Gaza a été détruite ou pratiquement rasée, eh bien c'est l'Union européenne qui reconstruit. C'est l'Union européenne qui donne l'argent pour reconstruire. Voilà. Donc, pour le moment, l'Union européenne se borne à ce rôle-là, parce qu'elle n'a pas voix au chapitre.
Elle n'a pas voix au chapitre. Voilà pour la réponse à votre question. Aboubacar est à Luanda, en Angola. Bonjour Aboubacar.
Oui, bonjour mon prince.
Voilà. Comment allez-vous? Oui, on vous entend, on vous entend. Allez-y, posez votre question.
Ok, ma question consiste à savoir, après un peu d'hésitation dans la réaction française envers les protagonistes des Prosoriens, j'aimerais savoir aujourd'hui quelle est la vraie position de la France en tant que superpuissance mondiale dans la crise entre Israël et le Palestine.
D'accord.
Qu'est-ce que la France peut faire? Quelle est la vraie position
des autorités françaises? Merci beaucoup, Aboubakar, pour cette question. Alors, le président de la République, François Hollande, président français, a déclaré, je cite, que l'escalade doit cesser dans le conflit opposant israéliens et palestiniens. Ça, c'était le 10 juillet. Et puis, au lendemain de cette déclaration, François Hollande a, on peut dire, mis un peu d'eau dans son vin. Il a nuancé un peu son propos. Et je cite là encore, il condamnait fermement les agressions contre Israël après s'être entretenu donc avec Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 9 juillet, c'est-à-dire pratiquement le lendemain du début des hostilités, François Hollande a eu une déclaration qui est jugée malheureuse dans la majeure partie du monde arabe. Il a simplement dit que Israël avait le droit de se défendre et que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, avait le droit de prendre, si vous voulez, toutes les mesures pour défendre son peuple. Pas un mot à ce moment-là, sur les Palestiniens et sur la situation à Gaza. Donc ça a mis un petit peu les opinions publiques du monde arabe en colère. Ensuite, c'est vrai, vous l'avez rappelé, il a eu une autre déclaration où là, il semblait être beaucoup plus équilibré. Donc voilà, mais en tout cas, ces déclarations, cette attitude ont fait que lorsque Laurent Fabius a pris l'avion pour aller au Caire d'abord et pour rencontrer donc ceux qui assuraient la médiation avec le Hamas, le Hamas poliment lui a même pas répondu à cause de cette position-là. Et il a pris l'avion ensuite pour aller en Israël. Et là, il a été reçu par le Premier ministre israélien, mais de manière très 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 froide. En un mot, Benjamin Netanyahou, raconte-t-on, ne lui a pratiquement pas laissé le temps de prendre la parole. Il lui aurait simplement dit « Je ne peux pas comprendre que vous mettiez sur le même point un pays qui se défend contre les terroristes et les terroristes. Dans ces conditions, il n'y a pas de cessez-le-feu. Au revoir. » Donc à ce moment-là, souvenez-vous, Laurent Fabius a pris l'avion et est rentré à Paris. Alors aujourd'hui, il y a une initiative avec plusieurs pays européens, en accord avec John Kerry. Mais encore une fois, c'est un appel à la modération, un appel au cessez-le-feu. Voilà. Et éventuellement, on évoque cette possibilité si un cessez-le-feu est établi et si des négociations sont amorcées et qu'il s'agirait de démilitariser la bande de Gaza, la France, avec l'Europe, serait prête à envoyer des hommes pour surveiller cette démilitarisation. Mais là, pour le moment, au moment où on parle, ce ne sont encore que des mots.
Voilà, pour les réponses à vos questions, à votre question, Aboubakar. Et merci de nous écouter à Luanda. Dominique est à Bamako. Bonjour Dominique.
Bonjour Rafi, bonjour l'auditeur.
Bienvenue Dominique.
Alors moi j'ai deux questions. Comment expliquer cette tir israélienne sur une école de l'ONU, alors que l'organisation internationale joue à la neutralité et à l'apaisement dans ce conflit?
Très bien, bah écoutez, merci pour cette question. Alors je rappelle là aussi, Toufi, que ce matin encore, à l'aube, une école de l'ONU où des habitants de Gaza s'étaient réfugiés a été bombardée par l'armée israélienne. Bilan au moins 16 morts, nous dit-on. Mais déjà le 24 juillet, un raid israélien avait touché une école de l'ONU dans l'enclave de Gaza, toujours. 15 personnes avaient été tuées, parmi les victimes des enfants et des employés des Nations Unies. Le secrétaire général Ban Ki-moon de l'ONU a vivement condamné cette attaque. Comment peut-on expliquer ce type d'action de la part d'Israël?
Bah écoutez, pour moi c'est un mystère. Enfin, je vous dis franchement ce que je pense. On a en place une des meilleures armées du monde, avec qui est capable de faire des frappes chirurgicales. Ils l'ont déjà fait, les Israéliens, avec des moyens sophistiqués. Donc comment faire pour toucher une école? Et c'est pas la première. En fait, il y en a au moins deux ou trois depuis le début du conflit qui ont été ciblés. D'autant plus qu'Israël, vous savez, envoie des tweets et même largue des tracts avant de frapper tel ou tel quartier et demande à la population de quitter ce quartier. Alors il y a un vrai problème. Vous savez, la bande de Gaza, c'est 362 km km². Et sur ces 362 km² s'entassent à peu près 1 800 000 personnes. Mmh. Donc, où aller? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était toujours sous blocus, donc c'est une vraie prison. Donc là, en l'occurrence, pour l'incident que vous avez évoqué ce matin, la population a cherché à fuir le quartier qui allait être bombardé. Ouais, Elle se réfugie dans les locaux et dans les écoles de l'UNRWA, donc des Nations Unies, et des obus tombent quand même dessus. Alors, il y a évidemment des erreurs. C'est compliqué parce que c'est ce que dit Israël. Le Hamas est comme un poisson dans l'eau au sein de la population palestinienne.
Oui, Israël dit d'ailleurs que le Hamas utilise la population comme bouclier humain.
Oui, alors le Hamas, que répond-il? Il dit, mais on n'a pas où aller, nous, on n'a pas de place, on est dans un espace confiné, fini, et voilà. Donc, ceux qui reprochent à Israël cet état de choses affirment même qu'en fait, Israël procède à une punition collective de la population pour l'obliger à se défaire du Hamas. Bon, difficile de vérifier ça, mais en tout cas, c'est troublant, quoi, que des écoles soient prises pour cible.
Mmh. Voilà, Dominique, pour les réponses à vos questions. On va poursuivre avec Ambroise, qui est à Cachan, région parisienne, hein, pour une autre série de questions. Bonjour, Ambroise.
Oui, bonjour, Zéphirin. Voilà, moi, j'ai, par rapport à ce drame qui se joue entre Israël et Palestine, j'ai certaines questions à poser. La première, comment Israël procède-t-il pour avertir les Palestiniens et notamment les Gazaouis des frappes imminentes?
Très bien. Alors, vous le disiez, Toufik. Hein. Oui, allez-y.
À cette première question, j'ajoute deux autres questions. La première, est-ce que vraiment on peut prouver une efficacité quant à cette alerte-là? Et la dernière question, est-ce que, comme je venais de l'entendre, y a-t-il pas de la part du Hamas une prise de la population comme bouclier humain?
D'accord. Voilà, les trois questions. Très bien. Pour répondre à votre première question, il faut rappeler que depuis le début, effectivement, de l'opération Bordure Protectrice, Israël a mis en place ce fameux dispositif pour prévenir les Gazaouis de l'imminence des frappes sur l'enclave. Comment fonctionne ce dispositif, Toufik?
Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils envoient des SMS à la population et puis ils la redétractent pour dire quittez ce quartier, il va être pris pour cible, nous allons le bombarder dans quelques heures. Donc voilà, c'est comme c'est.
Et quel impact ça sur la population justement?
La population essaye tant bien que mal de se mettre à l'abri, alors elle va dans les écoles quand elle peut. Je vous rappelle qu'il y a déjà 200 000 habitants qui sont confinés dans 82 écoles, donc elles sont saturées. Et puis il n'y a pas de place, encore une fois, c'est un espace très réduit, donc c'est très compliqué pour la population palestinienne.
Très bien. Une dernière question avec...
À propos de la prise d'otages, écoutez, le Hamas considère qu'il est en guerre contre Israël, puisqu'il est toujours la bande de Gaza est toujours sous blocus, les arrestations ne cessent pas, etc. Et puis la guerre révolutionnaire, vous savez, c'est la vieille théorie de Mao, c'est-à-dire que le mouvement révolutionnaire doit être au sein de la population comme un poisson dans l'eau. De toute façon, on voit mal où pourrait s'établir le Hamas ailleurs que Gaza, que dans les immeubles où habitent les gens.
Oui. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Allez, je vais la poser, je vais vous la transmettre. C'est la question d'Ahmed qui est à Pointe-Noire. Que peut faire la diplomatie américaine dans ce conflit, Toufik?
La diplomatie américaine peut exercer des pressions sur Benjamin Netanyahou, notamment, et jouer pour exercer des pressions sur le Hamas avec l'Égypte, qu'on a mentionné tout à l'heure, éventuellement le Qatar ou encore la Turquie, qui tous ces pays servent de médiateurs en ce moment. Alors, pour le moment, Obama lui-même, vous savez, le président américain a appelé il y a 2 jours, je crois, Benjamin Netanyahou à accepter un cessez-le-feu très vite, compte tenu du nombre des victimes civiles. C'est resté sans effet. Benjamin Netanyahou a dit non, ça m'intéresse pas pour le moment. Encore une fois, pas question d'arrêter tout cela si je n'ai pas l'assurance que le Hamas ne pourra plus jamais m'attaquer.
Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment pour toutes ces explications. Toufik Ben Aïchouch en direct ce matin dans Appel sur l'actualité. Vous restez à l'écoute, on se retrouve dans 10 minutes après le journal pour notre débat. À tout de suite.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.